l'essentiel de Noël. Et vous vous souvenez ce que c'était, l'essentiel de Noël? On fait une interro écrite. La personne de Jésus-Christ qui nous est donnée. C'est ça l'essentiel. La personne de Jésus qui nous est donnée. C'est Dieu qui est venu sur la terre nous dire, il y a quelqu'un là-haut. Vous vous rappelez de ça? Il y a quelqu'un là-haut qui vous aime. La preuve, c'est qu'il m'a envoyé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui m'a vu a vu le Père. Noël. Un magazine français, L'Express, l'an dernier avait sorti un article intitulé 50 clichés sur le christianisme. Il a recommencé au mois d'avril avec 10 clichés sur le crucifié. Alors moi je trouve très intéressant, c'est que Jésus-Christ intéresse. Jésus-Christ fait parler. Jésus-Christ fait même écrire. Mais ces deux numéros n'étaient pas des numéros spéciaux sur Jésus-Christ, mais des numéros contre Jésus-Christ, contre les Écritures, contre les Évangiles, contre l'histoire biblique. Le reporter rapporte que la naissance de Jésus n'est pas miraculeuse, que Jésus n'est pas né à Bethléem, que Jésus n'a pas accompli de miracle, il n'a fait de disciples, que Christ, en tout cas, n'est pas Dieu, il n'est pas venu d'en haut, il n'a pas été trahi par Judas. Par contre, il est bien mort et il n'est pas ressuscité. Il n'y a bien sûr, s'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas eu d'ascension. En bref, l'évangile n'est donc pas une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle. Vous savez que les mêmes choses arrivaient à l'époque de Paul. Et au chapitre 1 de l'épître aux Galates, au verset 6 à 9, Paul dit ceci. Il dit, il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que cela, qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté. Le but de Noël, mes amis, c'est d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'encourager, d'exhorter, d'expliquer, d'enseigner, d'amener des âmes à constater que Christ est bienvenue, qu'elles reconnaissent leur état et qu'elles confessent cet état et qu'elles acceptent le cadeau fait par Dieu. Voilà la différence. Le changement, c'est maintenant. Noël, et nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. Emmanuel. Emmanuel, c'est un mot hébreu. Comme Shalom, Amen, Alléluia, Bethléem, Shabbat. Emmanuel, c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est un événement historique qui a marqué notre calendrier. On distingue l'histoire, hein? Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. On a fait des révolutions humaines, celle de 1789 pour la France et bien d'autres. Et on va continuer d'en faire. Mais ça, c'est des révolutions humaines. Elles marquent le temps, mais elles ne marquent pas l'histoire. L'incarnation, la venue de Jésus-Christ, Noël, c'est la révolution divine. La réalisation, je vous ai dit quelque chose, je vous ai annoncé des choses. Voilà la chose. L'homme ne peut pas faire ça. Il ne peut pas promettre des choses qu'il ne peut pas faire. dans le prophète Ésaïe. Chapitre 7, verset 14. Voilà ce qu'il est dit. Ésaïe 7, 14. C'est l'Ancien Testament. C'est presque au milieu de votre Bible. Une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel, c'est Dieu fait homme. C'est le salut présent dans le monde. Ce n'est pas l'homme qui agit, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas l'homme qui est monté vers Dieu, je l'ai dit la semaine dernière, c'est Dieu qui est descendu vers les hommes. Noël, c'est Dieu avec nous. La terre et les hommes ne nous ont pas abandonnés. Un vieil homme reçoit la nouvelle que sa femme, avec qui il n'a pas eu d'enfant, va avoir un enfant. Et dans ce qu'on a appelé le cantique de Zacharie, la semaine dernière je l'ai mentionné pendant la fête de Noël, Zacharie va dire « Le soleil levant nous a visités d'en haut ». C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 78. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Quelle chose la plus extraordinaire pendant cette période de Noël, c'est de rappeler et de se rappeler. Et en plus, j'avais pas vu le chant là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais là, on commence par dire Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous, il est présent. Il est présent dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on... Moi, ça m'attriste quand même. Qu'on puisse ne pas voir ce que Dieu fait. Qu'on ne puisse pas en témoigner. Quand j'ai rencontré les premiers vrais chrétiens, il y a plus de... bientôt 30 ans, la chose qui me surprenait tellement, c'est que toutes les trois phrases, j'entendais « Oh, Dieu a fait !»« Oh, Dieu a dit !»« Oh, Dieu était avec moi !» Et je disais « Mais il est où ?» Et moi, je savais que Dieu était contre moi, en tout cas, je le croyais. Et je vis une liste longue comme ça de choses que je lui reprochais. Jusqu'au jour où j'ai découvert une liste longue comme ça de choses qu'il avait fait pour me garder en vie. Et j'ai dû plier, en dire « Seigneur, je jette ma liste et je prends la tienne. » Le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus, il n'est pas inutile de se rappeler qu'il est le Fils de Dieu. Et que Jésus n'a pas commencé à exister il y a 2000 ans. Ça, c'est l'homme Jésus. Mais Jésus, il existe avant de naître à Bethléem. Il existe de toute éternité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, voilà ce que dit Jean-Baptiste, qui lui est né 6 mois avant Jésus. Il est né 6 mois, Jean-Baptiste, c'est le cousin. Il déclare: celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Car il était avant moi. Le Messie vient après, mais il était avant. Le Messie vient après, mais il était avant. Comment ça se fait? Le Messie, c'est la réalisation, c'est l'homme envoyé sur terre. Mais Dieu, Fils, il existait avant. Il préexistait. Avant la naissance à Bethléem, le Fils de Dieu existait, et ceci de toute éternité. Le dernier des livres de l'Apocalypse, il nous dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement. Et le commencement, dans Genèse, c'est marqué au commencement. Mais Dieu n'existe pas depuis Genèse 1. Dieu n'existe pas depuis Genèse 1. mais il existe avant. Au commencement, Dieu. Dieu existe de toute éternité. Ça commence quand l'éternité ? Ça commence quand l'éternité ? Ça commence pas à Genèse 1 ? Ça commence avant Genèse 1. Au commencement de la terre, Dieu créa la terre. Mais Dieu existe de toute éternité. L'éternité, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. On a du mal avec ça. Que s'est-il passé ? On revisite toujours l'histoire avec Luc chapitre 2, hein, mais que s'est-il passé il y a plus de 2000 ans ? Dieu est entré dans l'humanité. Il est entré dans la chair humaine. Il s'est incarné, c'est ça que ça veut dire. Jean 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. La parole a été faite chair. Nous ne sommes pas seuls. Désormais, Dieu est à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Dieu est avec nous. On passe par des moments de solitude, n'est-ce pas ? Et peut-être certains d'entre vous, hein ? Et les moments de fête sont souvent pour ces personnes-là des moments de grande tristesse. Parce qu'ils sont seul. Alors c'est important déjà de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. C'est pas rassurant pour les personnes seules, hein, parce que si quelqu'un de seul nous dit je suis seul et qu'on lui dise mais Dieu est avec toi, hein, et Dieu, ben, tu pourrais être aussi avec lui, ça lui tiendrait compagnie. Les disciples ont pu dire il a marché avec nous dans les rues de Nazareth, dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Capernaum. Il a mangé avec nous. Il a dormi avec nous. Il a même transpiré avec nous. Il a connu la soif et la faim avec nous. Et quand on entend ça, on peut se dire, mais Jésus me dit à moi ce matin, je suis avec toi. Et à ceux qui ne le connaissent pas, il dit, hé, je suis là. Tu veux de moi ? C'est intéressant de marcher dans une foule et de se sentir seul. Non ? Dans notre monde moderne, quand je regarde les foules, je suis assez étonné. Chacun a ses oreillettes. Et chacun marche seul. Hein, ils prennent la chanson de Jean-Jacques Goldman, hein, « Je marche seul ». Mais il y a des millions de gens autour d'eux, mais ils marchent seuls. Et nous, des fois, on marche un peu seul. On a besoin de remettre les pieds sur terre et de se dire « Mais il y a du monde autour de moi. Est-ce que je veux des autres ?» Dieu a voulu être près des hommes. Près de vous, près de moi, près de nous. C'était ça le plan de Dieu au jardin d'Éden. Il voulait être près de ceux qu'il crée, avoir une relation intime, proche avec lui. Et on sait ce qui est arrivé. Avant de quitter ses disciples, Jésus dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, voici je suis plus avec vous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours. C'est une chose extraordinaire, non ? De se rappeler que Dieu est avec nous. Et on peut le rappeler à Noël. Dieu veut être et Dieu veut rester avec nous jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes prêts à accompagner les autres jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'on va les lâcher en route ? Je partageais ce matin cette réflexion qui me vient souvent quand vous demandez un conseil à quelqu'un, un conseil dans la vie. Oh, moi, je serais toi. Moi, je serais toi, bah, je ferais ça. Ah ouais? Tu le fais avec moi? Oh bah non. Non, non, mais ça, c'était un conseil pour toi. Hein. Tu te casses la figure, tu verras bien. On peut valider la... Et Jésus a dit, tout ce que vous allez faire, je serai avec vous. La deuxième chose qu'il dit, et la deuxième chose que je trouve extraordinaire, et on le trouve dans Jean 3,16. Le Seigneur n'est pas venu pour écraser, pour terrifier, pour détruire ou pour humilier, mais il est venu pour sauver. Dieu est pour nous. Il n'est pas simplement avec nous, mais il est pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset qu'on connaît par cœur, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu est pour moi. Qu'il n'est pas venu pour me juger, pour me détruire, pour m'écraser, pour me dire « Mais t'es nul, mon pote. T'es nul, t'as vu ta vie, t'es nul. T'as pas été à l'école, t'es nul. T'as pas de diplôme, t'es nul. Tu réussis pas dans la vie, t'es nul. » C'est le monde, hein, ça. Les profs à l'école. T'as un plan B à part l'école ? Parce que t'es nul, hein. Tu feras rien dans ta vie. On entend ça, non ? Les profs qui n'ont pas fait l'école de psychologie, hein, ont certainement fait l'école du cirque. Les églises, elles aussi, créent des clichés, des idées fausses. Les gens pensent que Dieu est contre l'homme, contre le bonheur. Dieu est au contraire, pour la liberté, pour la vie, pour les jeunes. Il a un plan pour les jeunes. Pourquoi je reste attaché aux jeunes, même si je deviens vieux ? C'est parce que Dieu a un plan pour les jeunes et Dieu est venu me chercher quand j'étais jeune. Il n'a pas attendu que j'ai 60 ans, je ne les ai pas encore. Il y en a qui disent « Oh là, le pasteur, il vieillit. » Mais Dieu est venu me chercher quand j'étais jeune et je veux passer cette passion aux jeunes. Parce que c'est quand on est jeune que Dieu vient aussi nous chercher. Pas à la sortie du lycée, il vient nous chercher avant, hein. Il est pour la musique, il est pour les instruments. Dieu est pour. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, 31, c'est ce que chantaient tout à l'heure les jeunes. Dieu n'a pas épargné son propre fils, dit Romains 8, 32, mais il l'a livré pour nous. En nous donnant son fils, Dieu a prouvé qu'il était pour nous. Voilà la bonne nouvelle. Dieu avec nous, Dieu pour nous. Wow. Ça fait plaisir, une bonne nouvelle au travers de toutes les mauvaises. Les anges ont proclamé dans Luc 2, hein, il nous est donné un sauveur qui est le Christ. Il n'est pas marqué un juge. Il n'est pas marqué un juge. Il est marqué un sauveur qui est Christ le Seigneur. Celui qui a vaincu le mal. Dieu avec nous, Dieu pour nous. Alors il en reste un, pour être théologique. Dieu en nous. Avec nous, pour nous, en nous. À Noël, Dieu nous rappelle qu'il veut être en nous. Il nous invite à le recevoir. C'est ce cadeau. Il nous invite à le recevoir. Il ne nous force pas, ce n'est pas un défenseur. Il ne vient pas avec l'huissier ouvrir la porte. Bon, tu ne veux pas que je rentre, mais tu vas voir. J'ai changé la serrure. 10 siècles avant la venue de Jésus, un roi, Salomon. Vous connaissez Salomon ? Il a fait bâtir un grand temple à Jérusalem. C'était une splendeur, une merveille. Il contenait tellement d'or qu'il rendrait jaloux tous les rois de la terre et toutes les banques. Le temple a été pour les hommes un lieu pour adorer. Mais un jour, Salomon s'est posé la question. Mais quoi ? C'est le roi qui a construit ce temple, hein, exprès. Il a dit, voilà, là, on va adorer Dieu. Puis, un jour, il s'est posé la question, un jour où il n'était pas bien, peut-être dans sa chambre, peut-être ça ne s'était pas bien passé. Il dit, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. C'est 2 Chroniques 6, 18. Il se posait la bonne question, le roi Salomon. Mais quoi? Est-ce que là, l'église évangélique, le phare, contient Dieu, là? Non. Non, 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 non. Salomon a compris que le temple était bien trop petit. Dieu avait un autre plan. Habiter par le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Habiter par le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. C'est là qu'il veut faire sa résidence. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas, vous qui avez accepté Jésus-Christ, que vous êtes le temple de Dieu ? » Waouh ! Dieu ne veut pas rester dehors, il ne veut pas être simplement pour moi, mais il veut être en moi. Cet appel solennel qu'il fait pour y rentrer, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne force pas la porte. Il ne vient pas avec une armée pour tout défoncer. Il laisse l'homme, celui qui entend sa voix et qui met la main sur la poignée de la porte, hein, je paraphrase, et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec. Voilà Noël. Noël, un Dieu avec, un Dieu pour et un Dieu en. Waouh, ça c'est Noël, non? Jésus, il est né d'une vierge, d'une dame qui ne devait pas être enceinte, qui risquait la mort. J'avais parlé la semaine dernière hein, d'une grossesse inattendue et d'une grossesse non voulue. Jésus est né d'une grossesse non voulue, né d'une vierge. Mais il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il a grandi à Nazareth, dans la maison de ses parents. Mais il n'était pas le fils du charpentier. Il était fils de Dieu. Dans Matthieu 27, 43, il le dit lui-même, « Je suis fils de Dieu. » Jésus est mort sur la croix, mais il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il vit et vient habiter en nous. Il a dit dans Luc 14, 22, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et nous ferons notre demeure chez lui. Vous vous rappelez, monsieur Zachée, sur sa branche. Hé, Zachée, descends, j'arrive. Je viens chez toi. Chez moi, attends, je vais faire le ménage. Mais c'est Dieu qui fait le ménage quand il arrive. Hein. Non seulement il s'invite, non seulement il vient, mais en plus, il fait le ménage. Il enlève tout ce qu'il y a de mauvais. Et là, il peut faire de l'espace. Jésus veut être dans notre vie, mes amis. Alors, c'est Noël, tous les jours, Christ en moi. C'est une expérience de gloire. Colossiens 1, 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est, parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ce mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà Noël. Avec nous, pour nous, en nous. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment avoir le plus beau des Noëls, mais les plus magiques sans aller à Disneyland? Par la foi, en ouvrant notre cœur, en priant, lui disant, Seigneur, je veux bien que tu rentres. Seigneur, je veux bien que tu rentres. Le but de la fête de Noël, c'est d'apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Je l'ai dit tout à l'heure, d'encourager, d'exhorter, d'expliquer, d'enseigner, de présenter Jésus-Christ, afin que chaque personne puisse se situer, comprendre que Dieu est avec, que Dieu est pour, mais que la dernière marche, c'est que Dieu veut être en cette personne. Nous allons faire des cadeaux, n'est-ce pas ? Petits ou grands, modestes ou non modestes. Mais si vous faites des cadeaux à ceux que vous aimez, alors ne manquez pas l'essentiel. Offrez-lui le cadeau que vous avez reçu. C'est ça le but de Noël. Le cadeau que vous avez reçu et que vous ne voulez pas garder pour vous. N'hésitez pas à communiquer aux proches, à vos enfants. Jésus vous aime. Vous avez de la valeur pour lui, tel que vous êtes. Rappelez-leur que toutes les prophéties concernant sa première venue se sont déjà réalisées. Il est né de la descendance de David. Il est mort pour mes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité selon les Écritures. Dieu l'a élevé pour le faire asseoir, c'est Philippiens, à sa droite, dans les lieux célestes, là où il était avant. Il s'est donné lui-même pour mes péchés, c'est le prophète Ésaïe, chapitre 53, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. Ceux qui croient en lui, Jean 3, 16, après avoir entendu la parole de la vérité, ont été scellés en lui par le Saint-Esprit qui avait été promis et qui seront éternellement avec Christ. Christ reviendra comme sauveur et juge de tous les hommes. Et il remettra le royaume à celui qui est le Dieu et Père, après avoir aboli tout pouvoir et toute puissance. Mais n'oubliez pas de dire dans le paquet, il y aura la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, et un jugement final où aura lieu la séparation éternelle des bons et des méchants, certains allant pour la punition éternelle et les justes pour la vie éternelle. Et pour clore, que les prophéties bibliques concernant ce deuxième retour sont en train de se réaliser à grande vitesse. Alors mes amis, peut-être vous n'avez pas reçu, vous rappelez de toutes les dernières fois ce que j'ai dit, mais je vous en propose trois. Noël, son but, c'est de rappeler que Jésus est descendu du ciel, qu'il est avec nous, qu'il est pour nous et qu'il veut être en nous. Ma question ce matin, est-ce qu'il est en vous ? Est-ce qu'il est en vous ? Ou est-ce qu'il est à côté de vous ? Est-ce qu'il est toujours en train de taper ? Et on lui dit, ouais, j'entends, j'entends. Vous savez, des fois, vous appelez vos enfants, vous dites, viens, oui, j'arrive. Et des fois, on est un peu comme ça avec notre père. Hein. Moi, j'ai attendu un peu avant de dire oui, 21 ans. Moi, je ne voudrais pas que vous attendiez 21 ans. J'aime peut-être aujourd'hui, vous ouvriez votre porte. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous sommes rappelés ce matin de ce fait extraordinaire. Nous avons vu la semaine dernière, déjà dans l'essentiel du message, que tu étais la personne qui était donnée. Mais ce matin, nous avons été rappelés par tes textes que non seulement tu veux être avec nous, que non seulement tu es pour nous, tu es pour l'homme, mais ce que tu veux, c'est en chacun de nous. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion pour nos enfants, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Peut-être pour certains adultes aussi, hommes et femmes, d'être rappelés à cette réalité que si tu te tiens à nos côtés, que si ton désir, c'est que nous ayons un avenir qui est fait d'espérance, la chose la plus extraordinaire, c'est que tu veux être en nous. Tu veux habiter en chacun de nous. Mais tu ne peux le faire, Seigneur, que si nous ouvrons cette porte. Alors ce matin, en ce jour où nous préparons Noël, nous voudrions offrir ce cadeau à chacun. Nous n'avons rien fait que d'être méchants. Nous n'avons rien mérité et Jésus nous a offert un cadeau. J'aimerais savoir si ce matin il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, un homme, une femme, qui se disent ce matin, c'est le jour, c'est le moment. J'ai entendu. Dieu ne veut pas rester juste avec moi, mais il veut rentrer dans ma vie, changer ma vie. Alors c'est important, je vais demander à chacun de rester tranquille, aux enfants aussi. Je fais beaucoup d'appels, mais celui-là, il est important. C'est peut-être le cadeau qui marquera votre existence tout entière. Bien sûr, votre éternité, du bon côté. Dieu l'a fait à votre insu. Vous ne le désiriez pas, vous ne le vouliez pas. Vous ne l'aimiez pas. Mais il est mort à votre place. Alors y aurait-il quelqu'un ce matin qui dirait, c'est pas pour rien que je suis venu ce matin. C'était pour entendre ce message. Comme notre sœur ce matin qui a dit, voilà, c'était l'occasion de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait accepter Jésus-Christ, qui voudrait ouvrir cette porte? Qui voudrait dire, tu vois, depuis le temps que j'entends, ça y est, je suis prêt. Et comme je le fais d'habitude, vous levez juste votre main, vous dites, pasteur, je veux accepter Jésus-Christ. Moi, c'était il y a 30 ans, dans ma chambre, en lisant l'Écriture. Vous avez l'occasion de l'entendre et de prendre cette décision-là. Parmi son peuple, y a-t-il quelqu'un qui aimerait le faire? C'est une grande décision. Elle ne se prend pas juste à la légère, sous le coup d'émotion, mais elle vaut la peine. Elle vaut la peine. Le plus beau cadeau du monde vous est offert. Ce Jésus qui vous aime, ce Jésus pour lequel vous allez faire la fête, être invité dans votre vie. Une dernière fois, y a-t-il quelqu'un qui me dit, pasteur Jean-Claude, j'aimerais vraiment qu'il entre comme il est rentré chez vous il y a 30 ans, tout simplement. Je lève la main, je dis oui, oui à Jésus-Christ. Oui. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Eh bien, Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin, dans la joie de nous rappeler que toi, tu es ce Dieu qui n'a pas attendu que nous te cherchions parce que nous étions incapables de te chercher. Nous étions incapables d'aller vers toi, alors toi, tu es venu vers nous. Et si tu nous as communiqué ce message, qu'il y avait bien quelqu'un là-haut qui nous aimait, tu nous as aussi communiqué le message que tu étais avec nous, que tu étais pour nous et que tu voulais faire ta vie en nous. Je veux te prier pour chaque personne ici présente, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les dames, afin que tu les visites. Et que ce message ne reste pas sans effet, qu'il puisse produire des racines et qu'il puisse grandir dans les cœurs, pour que Noël ne soit pas un Noël ordinaire, mais un Noël extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.